Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la dépression est la première cause de morbidité et d'incapacité dans le monde. Perte d'énergie, problèmes de sommeil, anxiété, baisse de la concentration, sentiment de dévalorisation, de culpabilité. Les symptômes sont nombreux et d'ailleurs plus de 300 millions de personnes dans le monde vivent désormais avec cette maladie. On estime que 15 à 20% des adultes souffrent ou ont souffert dans leur vie d'un syndrome dépressif. C'est une pathologie grave qui peut conduire au suicide. Alors quels sont les signes qui doivent alerter? Comment faire la différence entre déprime passagère et véritable dépression? Quels sont les médicaments nécessaires? Comment éviter les rechutes? Mon invité, le professeur Antoine Pellissolo, est psychiatre, chef du service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, en région parisienne. Il a publié « Dépression, s'enfermer ou s'en sortir ». C'est une coédition Inserm Le Muscadier. Si vous avez envie de participer, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, nous aurons également au téléphone le professeur Samuel Mampounza, qui est neuropsychiatre à Kinshasa en RDC, et Théa Rojman, qui est scénariste de bande dessinée sur la psychanalyse et la reconquête de soi, une bande dessinée intitulée « Émilie voit quelqu'un » aux éditions Fluide Glacial. RFI. Professeur Antoine Pellissolo, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a plus de dépression au retour des vacances, quand la rentrée arrive et qu'il faut reprendre le rythme habituel? Pas forcément.
Alors il y a en tout cas plus de stress. Je pense que c'est ça qui est au premier plan, parce qu'il y a souvent des choses à régler qu'on n'a pas réglées avant et puis qu'on a un peu oublié pendant les vacances, donc il faut s'y remettre. Donc le stress, c'est sûr. Après, selon chaque personne, on peut être plus ou moins sensible au stress. Il y a des gens qui vont créer beaucoup d'anxiété autour de ce stress extérieur. Et puis celles qui sont un peu vulnérables, peut-être plus facilement tomber dans certaines dépressions, mais qu'elles auraient eu aussi pour d'autres raisons. Donc c'est je pense pas qu'il y ait une forme de dépression de la rentrée. Comme par contre, il y en a plutôt un peu plus tard dans l'année. On sait que dans les périodes d'hiver, certaines personnes sont plus sensibles aux questions notamment d'ensoleillement.
Dans les pays du Nord, justement.
Voilà. Et donc, dans les dépressions hivernales,
c'est un phénomène qui est,
on va dire, partiel. Je pense que c'est rare que les dépressions soient uniquement liées à
la rentrée. Vous n'avez pas plus de demandes de consultation là au retour de vacances?
Non, pas spécialement. Les moments de l'année les plus difficiles, finalement, c'est l'hiver et puis bizarrement le printemps, parce que on peut penser que les personnes qui sont vraiment en souffrance voient les choses s'améliorer autour d'elles, le beau temps qui revient, et puis elles ne vont pas mieux. Et souvent, il y a même des pics comme ça de passages suicidaires qui sont assez surprenants.
Est-ce que c'est difficile de poser un diagnostic de dépression?
Alors oui et non. Quand on décrit la dépression, normalement, on pourrait penser que c'est simple, c'est être triste un peu tout le temps, ne plus avoir d'énergie, donc être fatigué, et de ne plus trouver de goût et de plaisir à faire les choses. Quand on dit ça, ça peut paraître simple. En fait, il y a deux difficultés. C'est d'une part que beaucoup de choses sont un petit peu masquées, c'est-à-dire que soit on ne les ressent pas soi-même, soit on a du mal à les exprimer. Donc pour l'entourage, c'est pas forcément visible, et même pour un médecin, c'est pas forcément visible à l'œil nu. Et puis la deuxième chose, c'est que il y a sûrement beaucoup de dépressions différentes, et que dans certains cas, ça va être plutôt les émotions, dans d'autres cas, plutôt le ralentissement, et qu'il faut s'y retrouver. Et en plus, le dernier point, c'est que ça peut être d'autres choses que la dépression. Donc tout ça, ça fait que c'est bien d'avoir un regard un petit peu diagnostique pour préciser les choses, sans dramatiser, parce que parfois, en fait, ça va être autre chose, et ça va être simple à régler autrement. Et puis quand c'est vraiment une dépression, c'est bien d'avoir tout de suite un avis spécialisé.
Et en fait, vous posez votre diagnostic à la suite, en gros, d'une interview. Vous posez des questions et c'est ça qui vous permet de poser le diagnostic. Il n'y a pour l'instant pas de marqueur comme il y a sur plein d'autres maladies.
Exactement. Alors, des marqueurs, on en cherche. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'il y a une recherche biologique, on va dire, très active et qui continue active aujourd'hui, mais qui n'a pas encore abouti. Donc, on peut espérer que d'ici 10 à 15 ans, c'est un des objectifs. On ait des examens, des tests.
Et alors, ce qui serait quoi? Qui serait un examen sanguin ou qui serait plutôt de l'imagerie du cerveau qui serait
Alors, ça peut être un peu les deux, et on va sûrement s'orienter vers quelque chose qui est un peu justement la conjonction de plusieurs indices. Alors, qui peut être lourd, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas fonctionnel. Si on voulait le faire à tout prix aujourd'hui, je pense qu'on aurait, avec un risque de se tromper encore assez important, mais une possibilité quand même de préciser des choses à partir de beaucoup de marqueurs biologiques et d'imagerie cérébrale, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est pas fonctionnel. Donc, peut-être qu'un jour, ça viendra, mais donc, aujourd'hui, c'est avant tout l'observation, comme on dit, l'entretien beaucoup, et c'est un entretien plutôt actif, c'est-à-dire que c'est pas quand on fait de la psychothérapie, on est souvent dans une forme de laisser parler comme ça librement. Dans un diagnostic, il faut poser des questions, parce que je vous disais tout à l'heure, les symptômes sont parfois un peu cachés, ils sont parfois assez complexes, et puis surtout, ils peuvent être au départ très banalisés, donc se sentir triste, c'est quelque chose de très banal, donc il faut préciser.
Fatigue aussi, quelque chose de banal.
Tout à fait. Donc c'est vraiment un entretien un petit peu spécifique et parfois qui prend du temps. Donc c'est on peut pas faire un diagnostic de dépression normalement en 10 minutes, ça peut être plusieurs entretiens même à la suite pour préciser. Donc c'est quelque chose de plus compliqué que qu'il en a l'air au départ.
Qui n'y paraît. Est-ce que c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée ?
Alors on sait que beaucoup de personnes déprimées ne sont pas, alors d'une part ne consultent pas, parce que pour plein de raisons différentes, le fait de ne pas s'en rendre compte et le fait de ne pas souhaiter en parler, par peur parfois aussi de
peur d'aller voir un psy,
tout à fait. Et puis une fois que c'est diagnostiqué, bon, la prise en charge est améliorée. Je pense qu'au fil du temps, depuis je sais pas 20 ans, on a des outils à la fois de pour préciser les choses qui ne sont pas des tests, mais qui sont des on va dire des critères de diagnostic plus précis, plus rigoureux. Et puis on a des outils de traitement. Donc maintenant, probablement qu'on a amélioré les choses par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Mais beaucoup de personnes restent, on va dire, soit pas dépistées, soit pas traitées de manière adéquate. Et il y a beaucoup de choses à améliorer de ce côté-là. Bon, moi je dirais, on a à l'œil nu comme ça l'impression que la moitié des personnes déprimées ne sont pas bien soignées correctement.
La moitié serait pas bien soignée correctement.
Ça veut pas dire
ou pas diagnostiqué ou pas bien traité, c'est ça.
Pour plein de raisons, hein. C'est peut-être aussi parce que le traitement ne convient pas. Mais et puis ce ne sont pas que des traitements médicamenteux. Il faut être clair avec ça aussi. Traiter une dépression, ce n'est pas que avec des médicaments. Donc certaines personnes n'en ont pas besoin et par contre ont besoin d'une aide spécifique. Et c'est ça qui manque assez souvent.
Toutes les thérapies sur lesquelles on reviendra longuement dans cette émission. On a Francine qui nous appelle de Douala au Cameroun. Francine, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Racontez-nous ce qui vous est arrivé.
Bon, ça s'est passé en 2015. Là, j'étais tombée enceinte. J'avais 4 mois de grossesse quand le papa de cet enfant a décliné toute responsabilité. Bon, bref, il a dit qu'il ne reconnaissait pas cette grossesse et c'était pas lui l'auteur de cette grossesse.
Et vous êtes quitté à ce moment-là?
Oui, jusqu'à présent, hein.
Et comment vous avez réagi à ce moment-là?
Oh mon Dieu, j'étais à deux doigts de me suicider. Parce que je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que je devais faire avec un enfant. Je devais prendre les moyens où pour élever un enfant toute seule.
Et je crois que votre maman vous a beaucoup aidé.
J'ai eu des moments de boire de l'eau de Javel. J'ai commencé à faire des abdos. Des abdos intenses, 25 abdos tous les matins pour pouvoir expulser cet enfant.
Et votre maman vous a beaucoup aidé, je crois.
Oui, ma maman, c'est-à-dire cette dame qui est ma maman, c'est-à-dire elle est venue comme un sauveur dans ma vie. C'est elle qui m'a remonté parce qu'elle m'a entendue un matin, j'étais tellement déprimée, j'étais assise sur mon lit, je priais, je disais au Seigneur que au lieu de m'infliger ce genre de choses, c'est mieux de me suicider, de me tuer. Elle a entendu cela. Elle m'a dit, non, ma fille, ne raisonne pas comme ça. Si tu ne veux pas cet enfant, accouche-le, donne-le moi, je vais m'en occuper.
Et alors, depuis, vous avez donc eu un fils. Et votre fils, il a presque 2 ans, c'est ça?
Oui. Et alors, il est déjà un grand garçon.
Et vous avez l'air d'aller mieux, là. Comment vous avez remonté la pente? Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à aller consulter un médecin et vous faire aider?
Ni un médecin, ni une copine, parce que ici, franchement, je veux vous le dire sincèrement, ici, en Afrique et au Cameroun en particulier, quand on apprend que j'ai été abandonnée avec un enfant, par un garçon, c'est une honte. Donc, tu es renfermé, tu ne veux même pas en parler à quelqu'un.
Tu n'oses pas, on n'ose pas en parler.
Tu ne peux pas. Oui, parce que tu ne voudrais pas que quand tu passes, on te montre le doigt, vous voyez, celle-là, elle est abandonnée avec un enfant, machin, truc. Je n'ai parlé de ça à personne. Et cette histoire a tellement joué sur moi jusqu'à au moment de mon accouchement, n'était pas facile.
Et aujourd'hui, je crois que vous faites des études de sage-femme, c'est ça?
Oui. Puisque j'ai fait un an, cette histoire m'a fait, j'ai fait un an, je n'ai pas fréquenté, puisqu'on m'a dit à la maison, si tu choisis, soit on s'occupe de ton enfant et toi tu arrêtes l'école. J'étais obligée de me ranger. Mais cette année, j'ai eu les moyens pour pouvoir aller à l'école. J'ai fréquenté, j'ai eu mon diplôme il y a de cela 2 semaines.
Bravo! Et donc, vous allez travailler?
Oui. Grâce à ma maman, j'ai pu surmonter, mais c'est pas facile. Je peux pas vous dire que jusqu'à présent, j'ai oublié cela. Parce que quand je reste, je pense à ça. Ce sont des larmes. J'ai vraiment envie de ne plus penser. Je ne sais pas si c'est une maladie. Je ne voudrais plus penser à cela. Je ne voudrais plus.
Ça reste douloureux.
C'est-à-dire, je ne conseille pas à une fille de vivre ce genre de situation. Je vous assure, ça fait tellement mal.
Oui.
Oh, mal.
Et ça fait mal encore aujourd'hui, c'est bien ce que vous dites. Professeur Antoine Pellissolo, quand il arrive comme ça un coup dur, en quoi un thérapeute peut aider?
Alors, on voit bien que la parole dans ces cas-là est quand même essentielle. La preuve, c'est que même si Francine n'a pas pu consulter sur place, elle a été aidée par sa maman, et puis elle en parle aujourd'hui, ce qui est très bien. On la remercie beaucoup parce que ça reste douloureux, effectivement, mais la parole est toujours essentielle. Que ça soit dans le cas d'une dépression, on va dire maladie, parce que c'est un concept particulier dans le cadre d'un trouble de l'humeur, ou que ça soit d'une réaction normale, on va dire, à un événement qui est parfois un vrai traumatisme. Donc, dans tous les cas, la parole sert à réparer les choses, et en plus être accompagné, d'avoir des conseils ou des choses comme ça. Donc, je crois que, normalement, l'interlocuteur, ça peut être un thérapeute qui... Bon, on comprend bien le problème de l'image que
ça peut
en avoir, et puis surtout du risque que des autres sachent des choses qu'on n'a pas envie de dire. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler que les médecins dans tous les cas et les thérapeutes sont des personnes qui gardent normalement le secret de ce qui est dit. Donc c'est
vous n'avez pas le droit de répéter
intimes,
ce qu'on vous dit.
Exactement. Et c'est la seule condition pour laquelle avoir une confiance. C'est vrai que le lien thérapeutique, c'est un lien de confiance réciproque, et bon, peut-être que les choses évoluent dans toutes les cultures. Il y a des réticences à parler aujourd'hui en allant vers les anges. Je pense que c'est là que nous on a un travail à faire, c'est de dire faut pas attendre juste que la personne se sente capable de venir nous voir. On essaye de dire on est ouvert et on peut vous dire ce qu'on peut vous proposer, enfin d'expliquer ce qui se passe dans nos consultations pour qu'il y ait moins de réticence.
Francine, vous voulez rajouter quelque chose?
Tout ce que je vous ai dit, c'est comme votre maman a tout passé, a dû monter cela. Parce que ça me perturbe.
Ça vous perturbe.
Je suis perturbée.
Ce qu'on entend en tout cas dans ce que vous dites, Francine, c'est que c'est encore difficile. On entend votre petit d'ailleurs derrière. Et donc là, vraiment, le conseil qu'on peut donner à Francine, c'est d'aller consulter.
Voilà, je crois que là, on sent bien que les émotions sont à vif.
À fleur
encore,
de peau.
Voilà. Même si dans la vie quotidienne, elle arrive à faire ce qu'elle doit faire, avec beaucoup de courage probablement, mais il y a toujours un coin de l'esprit qui est ailleurs.
Francine, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous reprendra hors antenne. On va essayer de vous donner des coordonnées de thérapeutes qu'on a à Douala. Merci beaucoup de nous avoir appelés et bon courage à vous avec votre petit garçon. On a au téléphone Théa Rojman, qui est scénariste de la bande dessinée Émilie voit quelqu'un, une bande dessinée qui est parue aux éditions Fluide Glacial. Il y a le tome 2 qui sort en ce moment. Le titre, donc, Émilie voit quelqu'un. Théa Rojman, bonjour.
Oui, bonjour.
J'aime beaucoup votre titre. D'abord, j'aime beaucoup votre bande dessinée.
Merci.
Je la trouve.
Oui.
Je trouve que vous traitez ce sujet justement d'aller voir quelqu'un, et on l'entend bien avec Francine. C'est difficile.
Oui, le titre sert à ça. C'est ce que raconte le titre. Oui.
C'est ce que dit le titre. C'est difficile d'aller voir quelqu'un.
Oui.
Et cette phrase, elle est devenue assez universelle. Je vais voir quelqu'un. Ça veut vraiment dire je vais voir un psy.
Et en même temps, on n'arrive pas à dire « je vais voir un psy ».
Oui.
C'est une manière de... c'est entendu que ça veut dire « on va voir un psy », mais finalement, on n'arrive pas à le dire. Donc ça reste encore un petit peu tabou en France comme ailleurs.
Je voudrais juste qu'on dise un mot sur le premier tome qui démarre justement en allant chez la psy. Et ce premier rendez-vous, il est quand même difficile.
Oui, il est dur pour un personnage de psy qui est un peu particulier, c'est sûr.
Ça, vous l'avez, elle est sévère.
Elle est gratinée. Mais alors, je tiens quand même à dire que ça ne sert pas du tout à se moquer des psys. J'ai beaucoup de respect pour la profession. Et que ce personnage, en fait, sert aussi à montrer que les psys eux-mêmes sont des êtres humains comme les autres et ont eux-mêmes leurs failles, leurs blessures, leurs particularités. Et que c'est une rencontre entre deux êtres humains aussi, au-delà de la fonction un peu sacralisée.
Et alors, le deuxième tome démarre avec « Je suis venu vous dire que je m'en vais ». Donc,
oui.
C'est la fin de la thérapie. Mais justement, on découvre que...
Une fausse fin, oui.
Voilà, c'est ça. On découvre que c'est pas la fin.
Voilà, oui, ça, parce que j'ai traité en fait la résistance au changement. Bon, les deux bandes dessinées traitent le processus thérapeutique tel que moi je l'ai vécu et puis tel qu'il est souvent vécu, avec différentes phases où on peut croire à un moment que tout est gagné en ayant un peu délesté les
problèmes. Je vais bien, c'est bon,
voilà,
j'ai réglé mon problème.
Très bien, tout est réglé. Et puis en fait, c'est souvent un moment où il faut aller plus loin et voilà, donc c'est la résistance au changement. Donc le deuxième tome commence là-dessus, elle va très bien, tout est réglé, et en fait pas du tout. Donc il va y avoir encore un chemin.
Exactement, tout un chemin à faire. Et alors, vous avez voulu faire ces BD, pourquoi justement? Pour démystifier cette thérapie? Pourquoi?
Oui, ben je crois que oui. Et puis, le traiter sous le mode de l'humour, c'est vraiment ça, c'est de dédramatiser la démarche, en fait, hein, d'aller consulter. Et en même temps, d'être plus à l'aise avec ça et de ne pas avoir peur d'aller consulter, parce que je pense que c'est très important. Je dis des fois, je serais super que la Sécu rembourse 10 séances à toute personne qui rentre dans la vie adulte pour un peu se délester des blessures d'enfance et puis pouvoir conduire sa vie mieux et débarrasser en fait de certaines blessures.
Une fois qu'on a fait ce travail, on se dit que ça ferait du bien à beaucoup de gens, c'est ça?
Oui, puis je pense qu'on est dans son rapport à soi-même et à l'existence plus conscient. Et du coup, je pense que dans sa relation avec les autres, à son travail, même dans le choix de son travail, on fait les choses plus en accord avec qui on est vraiment, en dehors de toutes ces blessures qui finalement ont un peu dirigé notre manière de vivre, je pense.
Professeur Antoine Pellissolo, une réaction par rapport à ça, parce que vous l'avez lu, cette bande dessinée. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bravo aux auteurs, parce que on est dans une démarche, là, comme on disait tout à l'heure, de multiplier les offres et les informations. C'est toujours le mode du décalage, de l'humour, c'est toujours une excellente manière de s'y prendre. Et on voit bien, en lisant la BD, qu'il y a du fond, en plus, sur des choses très complexes, mais qui sont abordées de manière, évidemment, ludique et accessible. Donc vraiment, bravo. Je crois que tout ce qui peut faire passer un bon moment et en plus inciter à mieux comprendre les choses est bénéfique. Ouais. Alors je rajouterais juste que bon, on voit bien que l'approche est très freudienne, psychanalytique, mais qu'il y en a d'autres évidemment et que maintenant cette capacité à se faire aider et comme vous disiez très bien d'améliorer la connaissance de soi, il y a peut-être des gens qui sont qui arrivent mieux à le faire avec d'autres approches que cette approche de la psychanalyse.
Tout
donc
à fait,
c'est bien d'avoir une multiplicité comme ça de possibilités et aujourd'hui on avance un peu là-dessus.
Vous pourriez faire la même chose maintenant sur les TCC, les thérapies comportementales
oui,
et cognitives
beaucoup,
en bande dessinée
fait,
pour
oui.
expliquer ce que c'est.
Ah oui, complètement.
Voilà, professeur Antoine Pellissolo, vous sentez toujours que le premier rendez-vous quand on vient vous voir et qu'on n'a jamais vu entre guillemets de psy, ça reste difficile?
Bien sûr. Alors c'est une caricature, mais le nombre de personnes qui arrivent en disant j'ai pas dormi de la nuit ou non mais c'est vrai, je me suis levé à 5h parce qu'il fallait être prêt, etc. Alors il y a tout un cérémonial, moi en plus je travaille à l'hôpital donc c'est peut-être encore plus marqué, mais effectivement c'est je dis pas que c'est le tournant de leur vie, mais c'est souvent une étape et qui est surtout un soulagement très rapide, parce que heureusement, enfin j'espère
finalement ça se passe bien,
c'est pas un traumatisme et que finalement c'est l'ouverture de quelque chose. Et
Thierry Rangeman, j'avais envie de vous demander du coup aujourd'hui, est-ce que vous allez bien?
Est-ce que je vais bien?
Oui.
La grande question.
C'est ça qu'on a envie de savoir à la fin de la BD.
Je vais vous répondre, je vais mieux.
Oui.
Je vais mieux. Oui, parce que je suis passée par tout ça, évidemment. Je pense qu'on ne peut pas traiter un tel sujet sans avoir ce vécu personnel.
Oui.
Je pense que la vie est toujours difficile et compliquée pour tout le monde. Après, on est plus ou moins sujet à des dépressions et à des difficultés. Mais faire un travail sur soi, franchement, ça transforme la vie.
Ça fait du bien. Ça change la vie. Merci beaucoup.
Disons qu'on devient qui on est plutôt.
Voilà. Merci beaucoup, Théa Rangeman. Et je rappelle donc que vous avez publié en bande dessinée Émilie voit quelqu'un chez Fluide Glacial. On se retrouve dans 3 minutes après les infos.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bien. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la dépression avec le professeur Antoine Pellissolo, qui est psychiatre, chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, en région parisienne. Il a publié « Dépression, s'enfermer ou s'en sortir », une coédition INSERM, le Muscadier. Et si vous avez envie de participer, vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Nous avons au téléphone Marcel qui nous appelle de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Marcel, bonjour.
Oui, bonjour.
Je crois que vous avez souffert de dépression en 2016.
Oui, oui.
Et alors, vous avez, à ce moment-là, vous avez consulté un médecin?
Oui, j'ai consulté un médecin.
Et comment vous avez... Oui, et vous avez été sous traitement?
Oui, j'ai été sous traitement.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Oh, aujourd'hui, grâce à Dieu, tout va bien, ça va.
Ça va.
Je souffre plus.
Oui. Et vous êtes encore sous traitement aujourd'hui?
Oui, je suis sous traitement. Mon rendez-vous, c'est pour le 6 septembre.
Et justement, voilà, vous avez de nouveau un rendez-vous le 6 septembre. Je crois que vous aviez une question à poser au professeur Pellissolo.
Bon. En fait, c'est concernant les effets secondaires, là.
Sur les effets secondaires des traitements, c'est ça?
Des traitements.
Allez-y.
Oui. Oui. Pour un moment, j'avais un problème d'érection pendant les traitements.
Et vous vouliez savoir si c'était lié au traitement ou est-ce que d'ailleurs ça peut être aussi lié à la maladie? Les problèmes de troubles de l'érection en cas de dépression, est-ce que c'est quelque chose de fréquent, professeur Pellissolo?
Oui, en tout cas, tous les problèmes sexuels, ça peut être d'autres choses. Souvent, c'est plutôt la libido, on va dire, qui est diminuée.
De façon générale.
De manière générale, et puis il y a d'autres difficultés. La vraie question, c'est comme vous disiez, ça peut venir de la dépression elle-même. C'est un des signes quasiment un des plus courants probablement, ce manque d'envie tout simplement. Et puis
un manque d'envie dans la vie en général d'ailleurs, pas que sur la sexualité.
On peut dire le plaisir et l'envie de faire les choses, l'énergie vitale comme on dit, ce qui attire d'habitude les choses est moins présente ou absent complètement. Donc ça, c'est un des symptômes habituels de la dépression, mais c'est vrai que ça peut être aussi une des conséquences négatives de certains médicaments, pas de tous, mais c'est vrai que les antidépresseurs ou d'autres traitements psychotropes peuvent avoir cet effet secondaire. Alors c'est important de le dire, de le mentionner à son médecin, parce que, bon, même si on est un peu gêné, parce que vraiment, on peut trouver des solutions en changeant un petit peu la dose, en changeant le médicament quand c'est vraiment un problème. Et souvent, ça revient petit à petit. Et en tout cas, là, il faut se rassurer, ce n'est jamais définitif.
Dans c'est transitoire.
Tous les cas, quand on aura arrêté le traitement, et surtout quand on ira mieux, les choses vont revenir comme avant. Donc, c'est heureusement, il y a cet aspect transitoire. Mais bon, si, des choses peuvent être faites. On n'a pas de solution miracle, malheureusement, qui marcherait à tous les coups là-dessus. Mais c'est important d'en parler parce que la vie affective et sexuelle est évidemment des composantes importantes. Quand on revient à une vie normale, il faut dans l'idéal retrouver toutes ces...
Ça aide aussi à retrouver le moral, c'est ça. Voilà, et donc le conseil que vous êtes en train de donner à Marcel, c'est dans son rendez-vous début septembre, il faut qu'il en parle au médecin, ses effets secondaires, c'est important.
Tout à fait, parce que ça permettra de préciser un petit peu la cause éventuellement. Il peut y avoir d'autres causes, hein, on peut avoir des problèmes d'érection pour d'autres raisons, ça dépend de l'âge notamment, mais de pouvoir identifier éventuellement le problème et de chercher des solutions, ou en tout cas de se dire, si on n'a pas de solution complète tout de suite, d'être assuré sur le fait que ça va venir un peu plus tard.
Donc c'est ça le conseil, Marcel. Bon courage à vous. Quels sont les autres effets secondaires des traitements des antidépresseurs?
Alors les plus courants dans ceux qui persistent, parce qu'il y en a certains qui arrivent au début puis qui passent très vite, surtout des problèmes digestifs, c'est souvent ça au démarrage, mais qui sont vraiment bénins et pour lesquels on peut continuer le traitement. Ceux qui peuvent persister, c'est effectivement les problèmes sexuels, donc en général ce problème de libido ou de problème d'érection chez l'homme, ou parfois quelque chose de particulier qui est la capacité à obtenir l'orgasme et avoir un gros retard à l'éjaculation, donc ça c'est un des problèmes particuliers. Mais sinon il y a les problèmes problèmes de poids et d'appétit. Alors, soit une augmentation de l'appétit, soit une prise de poids qui peut être plus ou moins importante, quelques kilos en général. Ce n'est pas systématique, mais c'est assez fréquent. D'où la nécessité aussi d'en parler pour trouver des solutions. Et puis, souvent, c'est le sommeil ou la fatigue. Donc, ça peut être dans les deux sens. Je dors moins bien ou au contraire, je dors trop. Je suis fatigué tout le temps. Et ça, c'est que ça demande un réglage parce que vraiment, le but, c'est de bien dormir et d'être en forme dans la journée. S'il y a un effet secondaire comme ça, même si on va mieux par ailleurs, c'est pas une bonne solution. Donc là aussi, il faut trouver des réglages qui permettent d'améliorer ça.
Donc des effets secondaires assez limités sur les antidépresseurs.
Oui, c'est ça qui fait que justement, on a pu, grâce à des médicaments qui existent maintenant depuis longtemps, qu'il n'y a pas eu de révolution dans ce domaine-là depuis quelques années. Mais par contre, on a une gamme maintenant assez large et on les connaît bien. Et on sait que la plupart du temps, la tolérance est plutôt bonne. Alors il peut y avoir des inconvénients, ce qui fait qu'on a besoin d'un suivi et d'adaptation. Mais c'est vraiment des médicaments qui sont compatibles avec une vie tout à fait normale, parce qu'il y a toujours cette peur au départ aussi de se dire je vais être sous médicaments, je vais plus être moi-même. Alors ça, c'est vraiment des idées fausses. Le but, c'est de revenir soi-même avec les moyens qu'on a d'habitude quand on va bien, alors que la dépression vous les a enlevés. Donc c'est vraiment revenir soi-même et les effets indésirables qui arrivent parfois, en général, soit ils sont tolérables, soit on les corrige avec un changement de médicament, ce qui fait que c'est aussi des fois un peu difficile au début on a l'impression qu'on va pas trouver, on en essaye un, puis parfois un deuxième ou un troisième parfois, mais
il faut s'accrocher
parce qu'on a justement quand même une gamme qui permet de souvent trouver quand même le bon compromis à la fin.
Est-ce qu'il y a un risque d'accoutumance? C'est une question qui revient tout le temps aux antidépresseurs, hein,
c'est une question essentielle parce qu'elle fait partie des idées reçues des idées fausses en l'occurrence, parce que vraiment dans cette famille-là des antidépresseurs, c'est une famille identifiée, on n'a pas de problème de dépendance. Alors, et d'ailleurs, c'est une des raisons qui font qu'on peut se permettre de donner des traitements, d'administrer ces traitements pendant assez longtemps, et c'est nécessaire. En général, on se donne au moins une bonne année pour conclure un traitement. Le fait d'arrêter trop vite, quand on va mieux, par exemple, ça expose au risque de rechute très, très rapide. Donc, on fait un traitement d'environ un an, et dans ces cas-là, on arrête progressivement, et vraiment, on arrive toujours à arrêter. Les arrière-pensées, elles viennent du fait que certains médicaments psychotropes, qui sont pas les mêmes, qui sont plutôt les anxiolytiques, ce qu'on prend pour d'habitude, les angoisses pour dormir, etc., eux créent un problème d'habituation et de...
Anxiolytiques et somnifères, d'ailleurs, aussi.
Et les somnifères, c'est souvent un peu les mêmes familles, et donc, pour lesquelles on a du mal à arrêter quand on en a pris longtemps. C'est pour ça que, finalement, ces médicaments-là, on a tendance plutôt à les éviter quand on peut, ou en tout cas à les prendre sur des périodes très courtes.
Il faut bien faire la différence entre les deux et pas mettre tout dans le même sac.
Et là, le médecin doit aider, parce que on se trompe. Hein. Moi, il y a plein de gens qui, même des gens qui ont l'air un peu informés, qui mélangent, parce que c'est normal. Quoi.
Ils ne savent pas ce qu'est un antidépresseur et ce qu'est un anxiolytique. Et en plus, avec les noms génériques, ça devient encore plus difficile de temps en temps à retenir. On a au téléphone le professeur Samuel Mampounza, qui est neuropsychiatre, secrétaire général académique de l'université protestante au Congo, à Kinshasa. Professeur Mampounza, bonjour.
Oui, bonjour Madame Claire.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence des dépressions en RDC? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la même chose que partout dans le monde?
Ben, l'Afrique, la RDC n'est malheureusement pas en marge du monde en ce qui concerne ce problème de dépression. La dépression, c'est un problème majeur de santé publique en Afrique, en RDC. Malheureusement, le problème est sous-estimé, parce que les patients ne consultent pas toujours ou parce que les praticiens ne le reconnaissent pas toujours comme tel. Et surtout que chez nous, en Afrique, la dépression, qui est d'abord et avant tout un problème de l'humeur, se présente sous une forme masquée par les symptômes physiques. Ce qui fait que les malades, voire les praticiens, se centrent plus sur ces problèmes physiques et ne reviennent à la dépression que quand la solution n'est pas trouvée.
Par exemple, des gens qui ont des maux de ventre.
Et c'est essentiellement des troubles de digestion, des troubles cardiovasculaires, des palpitations, sur fond des fatigabilités qui ne se résout pas au repos, avec des maux de tête vagues, l'envie de ne rien faire, ce qu'on appelle la boulie. C'est sur ce fond-là que ces symptômes physiques viennent la dépression en Afrique.
Je voudrais faire réagir à ça, professeur Pellissolo, parce que c'est aussi des situations auxquelles vous êtes confronté, peut-être moins fréquemment.
Oui, alors il y a sûrement à la fois des éléments liés à la personnalité de chacun et puis liés à la culture, on va dire, c'est-à-dire à ce qui a été transmis par les autres, la famille, l'environnement. Et on a une partie des tableaux dépressifs également chez nous qui sont avant tout, en tout cas signalés par le corps, qui sont que la personne va signaler elle-même ou qui vont s'exprimer surtout par cette incapacité physique qui fait partie de la dépression. Hein, finalement, ce ne sont pas des fausses symptômes, ce sont des vrais symptômes qui sont liés à la dépression, mais qui vont être plus ou moins au premier plan et qui vont être souvent plus faciles à dire socialement, culturellement, que de dire qu'on va mal et qu'on a des problèmes psychologiques.
Mais du coup, ça complique le diagnostic dans ces cas-là.
Ça peut retarder le diagnostic parce qu'on va pas voir forcément les bons spécialistes, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui vont s'occuper de la dépression.
Vous allez voir plutôt
elle-même.
Un gastro si vous avez des problèmes de digestion.
Exactement, et puis on a du mal à se détacher de ça. Je pense que si on est convaincu que finalement le vrai problème, c'est un problème à l'estomac ou au dos, ou ailleurs, on va mettre plus de temps à accepter l'idée du traitement psychique.
Quel est le regard d'ailleurs porté, professeur Mampounza, sur les psys et la dépression en RDC?
Ben, la dépression, d'abord, il est difficile dans notre culture de se savoir incapable et surtout qu'on n'agit pas toujours seul, on est avec les autres. Et donc, rarement, on se culpabilise, on se rejette la faute, entre guillemets, de ce qui ne va pas. Voilà donc ce qui fait que c'est essentiellement le physique, mais la culpabilisation prend le devant dès qu'on est convaincu qu'on est en quelque sorte seul responsable. Et bien sûr que une maladie mentale, présentons-la comme telle, a une connotation négative dans la culture. Ce qui fait que, une des raisons de plus pour que les gens ne consultent pas, qu'on est un peu marginalisé et qu'on reste seul avec son problème, ce qui renforce la dépression in fine.
Professeur Pellissolo, est-ce que ce n'est pas un des intérêts d'ailleurs de la thérapie, de déculpabiliser? Se dire qu'on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive.
Entièrement, oui. Et en même temps, d'accepter. Enfin, il y a une forme d'acceptation des choses qui n'est pas d'accepter d'aller mal, qui est plutôt d'accepter d'être tel que l'on est et d'avoir des fragilités et de, par contre, de lutter contre. Donc, c'est une vision de soi un peu différente, effectivement, qui correspond à la réalité. Comme disait mon collègue, on n'est jamais responsable d'une maladie. Et donc,
pas plus de celle-là que d'une autre.
Exactement.
Et on a longuement parlé dans l'émission jusqu'à maintenant des médicaments. On a un peu parlé thérapie avec cette scénariste de BD. La thérapie, elle est essentielle. Vous ne donnez pas des médicaments seuls. C'est important que le patient aussi suive une thérapie.
Alors oui, mais avec plusieurs étapes en général, il y a plusieurs stades. Quand on est vraiment dans le plein de la dépression, qui
au fond du trou,
et qui en général, pas toujours, mais en général, est marqué par un ralentissement de toutes les fonctions du corps et de l'esprit. On pense beaucoup moins vite. Alors le plus évident, c'est les problèmes d'attention, par exemple, quand les personnes déprimées n'arrivent pas à se concentrer, n'arrivent pas à se souvenir de ce qu'elles ont fait. Donc évidemment, à ce stade-là, il ne s'agit pas d'une thérapie profonde sur soi. C'est plutôt un accompagnement psychologique, le fait de pouvoir verbaliser, de pouvoir être conseillé et accompagné. Et la thérapie, on va dire un peu plus profonde, vient dans un deuxième temps pour comprendre ce qui s'est passé, donner du sens à tout ça, et avec plusieurs formes possibles, parce que vraiment, il faut que ça réponde à un besoin aussi qu'on ressent. La thérapie plutôt proche de la psychanalyse peut répondre à certains besoins, quand on a l'impression qu'on a mis le doigt sur des choses réellement problématiques, anciennes, de questionnement notamment. Et puis, il y a d'autres façons de s'y prendre, qui sont d'améliorer la gestion de soi-même, la gestion surtout des émotions et la gestion du stress, qui peut être aussi une bonne façon de se protéger vis-à-vis de rechutes éventuelles.
C'est ça, il y a des thérapies qui sont plus basé sur le dialogue où le psy est pas silencieux, où il peut intervenir, poser des questions,
et
c'est ça?
Quand
sur l'image du psy qui dit rien.
Exactement. Je crois que maintenant, même pour les psychanalystes, c'est une image un peu dépassée, parce que on sait bien que laisser quelqu'un dans le silence, à part certaines personnes qui vont occuper le terrain toutes seules, mais très souvent c'est douloureux. Mais ça, je vois souvent des problèmes. Voilà, j'ai vu tel psy qui disait rien, ça. Mais maintenant, je crois que c'est plus ça.
D'accord. Professeur Mampounza, j'aurais une dernière question à vous poser. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge des dépressions?
Ben, il y a d'abord des difficultés liées à la culture qui est la nôtre ici en Afrique, où le médecin, c'est celui qui donne des médicaments. Or, la dépression, il faut y aller dans un premier temps. On peut peut-être donner les médicaments tant que la personne accède à la parole, parce que la parole, la psychothérapie, le soutien, l'accompagnement, c'est quand même l'essentiel de cette prise en charge. Donc, personne qui est déprimée exige des médicaments tout en refusant un accompagnement dans la durée. Parce que chez nous, une maladie ne doit pas traîner. Elle traîne, c'est qu'on n'a pas encore vu le bon médecin. Donc, il faut arriver à convaincre la personne que le médicament, c'est juste le temps pour calmer la tempête, disons, et qu'il faut un travail de fond qui est à faire, un accompagnement, peut-être pas seul, même avec son environnement, ça dépend de la forme de la dépression. Donc c'est un travail un peu difficile lié à la croyance, à la conception culturelle de la dépression et de son vécu en Afrique.
Merci beaucoup, hein, professeur Samuel Mampounza. Je rappelle que vous êtes neuropsychiatre à Kinshasa, en RDC.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Antoine Pellissolo, je trouve que le professeur Mampounza vient de dire quelque chose d'intéressant sur la question du temps. C'est une pathologie où il faut accepter qu'il va falloir du temps.
En tout cas, c'est indispensable. À la fois, je vous disais, pour poser les choses, et comprendre ce qui se passe, et puis pour évoluer. On a des réponses à court terme pour soulager, c'est sûr, et c'est souvent indispensable. Ça peut être un soulagement un peu artificiel avec certains médicaments, mais qui vont avoir un effet de fond quand même après. Ça peut être juste de se reposer aussi en même temps, donc de vraiment se poser un petit peu. Et puis après, on va mettre du temps à s'en remettre. Et ça, bon, alors évidemment, c'est compliqué à l'avance de se dire je vais en avoir pour 6 mois. Et donc ça, à la limite, on va pas détailler ça à l'avance et on va voir au fur et à mesure. Mais
surtout qu'avec les médicaments, relativement vite, on peut aller mieux.
Oui, heureusement. Donc le délai de réponse, c'est pas quelques jours, c'est plutôt quelques semaines. Mais normalement, au bout de 2-3 semaines, on retrouve la plupart de ses capacités. Mais s'en remettre, entre guillemets, ça peut vouloir dire se détacher de toutes les souffrances qui ont accompagné ces moments-là, retrouver toute son insertion, alors notamment dans le travail, le retour au travail est toujours plus long, de retrouver le sommeil, par exemple, c'est sûrement une dernière chose qui se stabilise vraiment. Donc tant qu'on dort mal, on a du mal aussi à faire plein de choses dans la journée.
Et à travailler, justement.
Et notamment à travailler. Donc c'est beaucoup d'éléments qui se... La dépression, c'est vraiment un dérèglement global, et donc le rétablissement, il doit être aussi global, et il est progressif. Donc il faut admettre qu'on n'est pas comme ça un robot qui va se réparer en 2 jours. Et il y a une vision comme ça maintenant un peu médicale qui voudrait dire
je vois le médecin,
j'ai une maladie,
il donne un médicament,
j'ai un traitement et ça va être réglé. Alors bon, on essaye de s'approcher ça autant que possible, ça serait bien, mais dans la réalité, la psychologie humaine fait que on met du temps à s'en remettre. Mais il y a aussi, on peut voir les choses positives, c'est que une fois qu'on a dépassé ces caps-là et qu'on a fait une réflexion quand même sur le sens de ce qui s'est passé, on peut en sortir aussi mieux d'une certaine manière, un peu grandi sur certaines choses qui seront bénéfiques par la suite. Mais c'est plusieurs mois minimum pour sortir de ça. Et ça, il faut le dire aussi aux proches, parce qu'ils ont du mal à comprendre. Ils ont l'impression que finalement, c'est réglé, on a eu le traitement,
ça va mieux.
Et pourquoi ils continuent à être un peu ronchons de temps en temps, ou ne pas aimer les mêmes choses? Bon, ça va mettre du temps, et il faut donner ce temps-là, parce qu'en étant attentif et en tout cas très bienveillant, les choses s'améliorent. Et au bout d'un an, par exemple, parfois, c'est un mauvais souvenir, mais ce n'est plus qu'un souvenir.
Et vous dites, on en sort grandi, et elle disait aussi la même chose, justement, la scénariste tout à l'heure. On a Edmond qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Edmond, bonjour.
Bonjour Claude.
On vous écoute, Edmond.
Oui, donc ma question est que je suis suivi par un psychiatre. Donc il m'a prescrit 2 produits, Fluxine Jean Pharma 20 mg et puis Chemesta 2,5 mg. Donc le Fluxine, je le prends le matin.
J'ai pas entendu le nom de l'autre médicament. Le Temesta, j'ai entendu, mais l'autre.
Bon, Fluxine, j'en pharma 20 mg.
Fluoxétine. Probablement, c'est ça?
Voilà.
Fluoxétine.
Et bon, maintenant, le deuxième produit, Temesta. Donc, Lorazepam, 2,5 mg.
Oui.
Donc, là, en fait, ça fait 2 mois qu'on me suit.
Oui.
Maintenant, là, le médecin a trouvé opportun de diminuer la dose du TMSA. Et maintenant, je remarque la dose diminuée du TMSA que je prenais en comprimé le soir. Maintenant, il m'a dit de prendre le demi. Mais sauf que quand je prends le demi, il y a le déséquilibre qui revient. Donc, je ne suis pas, en fait, stable. Je ne peux pas faire une activité. Alors que quand je prenais le TMSA entier,
ça allait mieux.
Je suis vraiment en forme toute la journée. Ça allait mieux, voilà. Mmh. Ça allait mieux. Donc, au bout de 2 mois, il a maintenant dit, bon, de diminuer la dose. Et je me rends compte après, bon, 4 jours de cela, ça fait qu'il y a des exercices qui reviennent un peu, donc je ne suis pas en équilibre.
Et vous aimeriez bien comprendre pourquoi. Je trouve que votre question est très intéressante, Edmond, parce que professeur Antoine Pellissolo, ça va bien vous permettre de nous expliquer la différence entre les antidépresseurs, les anxiolytiques, pourquoi on donne des anxiolytiques au début du traitement, pourquoi on diminue la dose. La fluoxétine, c'est un antidépresseur.
Un antidépresseur, ça sera normalement votre traitement principal et normalement unique, Edmond, au bout de la période actuelle. C'est le traitement qui, on va dire, guérit la dépression. Alors guéri, c'est un double tranchant, parce que je vous ai dit tout à l'heure, si on arrête trop vite, on va rechuter. Donc on n'aura pas guéri tout de suite définitivement, mais qui va faire disparaître tous les symptômes.
Et ça, il va être pris pendant plusieurs mois, c'est ça?
Oui, on dit 6 mois à un an. Je pense que le plus souvent, on est vers 9 mois ou un an, sans inconvénient vraiment de dépendance, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc au bout d'un an, on arrive toujours à arrêter, ou alors c'est qu'il y a d'autres difficultés qui sont pas les mêmes. L'autre famille,
fluoxétine, en fait, c'est le nom de la molécule, mais c'est un nom très connu, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est l'un des premiers, c'était le Prozac.
C'était le Prozac, voilà.
Qui reste encore commercialisé sous cette forme. Et donc, c'est un traitement d'une nouvelle génération à l'époque, parce que beaucoup plus facile à prendre que ceux qu'on avait avant et qui, d'ailleurs, on a toujours, qui peuvent être parfois plus puissants, mais avec plus d'inconvénients en termes d'effets secondaires. Donc, ce sera a priori le traitement à continuer à prendre tous les jours et normalement sans inconvénients majeurs. Par contre, le Temesta, en l'occurrence, ou le lorazépam, effectivement, c'est le nom de la molécule, ça fait partie des anxiolytiques et la famille des benzodiazépines, pour être précis, parce qu'il y en a beaucoup de cette famille-là qui sont très consommées encore aujourd'hui, en France notamment, qui sont des calmants, comme on peut dire, c'est-à-dire calmer le stress, l'angoisse, qui eux agissent plutôt très rapidement, contrairement aux antidépresseurs qui mettent au moins 2 ou 3 semaines. On sent un soulagement tout de suite avec les anxiolytiques, et c'est un peu ça le piège, parce qu'évidemment, on a l'impression que ça marche, enfin, ça marche sur l'anxiété, par contre, ça marche pas sur la dépression, donc ça sert à rien de maintenir.
Ça calme sur le moment, mais ça soigne pas à long terme.
Et surtout, ça soigne pas la dépression. Dans la dépression, il y a de l'anxiété, donc forcément, il y a un soulagement, il y a un effet parfois même qui peut être un peu artificiel, de planer un peu, on va dire, notamment si on augmente les doses, mais ça n'a pas d'effet thérapeutique. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, on sera aussi déprimé, pessimiste qu'on l'était avant. Donc, alors quand on le prescrit, c'est toujours au cas par cas, mais c'est quand vraiment on a l'impression qu'au début, comme il y a ce délai de 2-3 semaines, il faut soulager, effectivement, de manière un peu plus rapide, soit les angoisses, soit les troubles du sommeil.
Donc, c'est tout à fait normal que le médecin d'Edmond lui ait prescrit ça au début et qu'il veuille après.
En tout cas, c'est habituel. C'est pas systématique. Quand on peut éviter, on essaie d'éviter, mais si c'est nécessaire, c'est peut-être justifié.
Et c'est tout à fait normal aussi qu'il veuille diminuer la dose après.
Exactement, on est dans un schéma normal. Alors, si j'ai bien compris, ça fait 2 mois, ça fait peut-être déjà un petit peu... Déjà, on sait qu'au bout d'un mois, les problèmes d'arrêt commencent à se poser avec les anxiolytiques. Donc, c'est, je pense, c'est toujours difficile de faire un diagnostic comme
à
ça
distance,
au téléphone,
voilà,
sans
absolument.
Connaître la personne, ouais. Mais en tout cas, habituellement, on peut déjà avoir ces problèmes un peu de syndrome, on va dire, de sevrage, comme on dit, ou de manque, parce que on est habitué aux médicaments et qu'on va l'arrêter.
Et ça pour expliquerait autant, les vertiges, justement.
Ça peut tout à fait. Donc, vraiment, c'est une explication peut-être un peu rapide, mais qui peut être tout à fait crédible. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'il va falloir, si possible, être un peu endurant pour supporter ça, parce que c'est la meilleure façon ensuite de pouvoir arrêter complètement. Alors, si c'est un peu trop pénible, il faut trouver des moyens de faire des diminutions plus progressives. Là, c'était bien de faire la moitié, c'est la bonne procédure, a priori.
C'est
un médicament assez fort, donc voilà, il faudrait couper en 4, trouver des... Non, mais c'est assez pragmatique comme ça, ou alors changer de molécule qui pourrait être fait, par exemple, avec des gouttes, ça peut être une façon de faire. Mais normalement, le traitement est quand même assez récent, donc vous allez y arriver. Il faut juste un peu de patience pendant la phase de transition qui dure en général quelques jours. Hein. Ça ne dure pas des années.
Edmond, vous avez une autre question?
Non. En tout cas, celle-là, j'ai été soulagé. J'ai vraiment très compris.
Donc, j'ai compris.
Merci beaucoup, en tout cas, Edmond, pour votre question, parce que vous avez effectivement posé une question assez essentielle. On arrive à la fin de cette émission. Je suis désolée, je sais qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent, mais on sent bien que sur ces questions-là, il faut du temps pour vous répondre. Donc, je vais plutôt, moi, continuer à vous poser des questions. Professeur Antoine Pellissolo, où en sont les recherches? On a parlé au début de l'émission des recherches pour améliorer le diagnostic. Où en sont des recherches sur de nouveaux traitements?
Alors, il y en a beaucoup aussi, heureusement, parce que c'est un tel problème de santé publique, on l'a dit, qu'il faut continuer les recherches.
Oui, pardon, juste problème de santé publique, le chiffre que j'ai donné au début, une personne sur cinq a souffert ou souffrira dans sa vie d'un problème dépressif,
oui, c'est l'ordre de grandeur habituel. Donc, ce qui veut dire, à un moment donné, à peu près, quand même, pas loin de 5% d'une population à un moment donné. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est plusieurs millions de personnes en France, enfin, etc. Donc, c'est, alors, avec des degrés variables, hein, évidemment. C'est un enjeu majeur qui est, on dit, bon, l'OMS a fait des classements et c'est quasiment le problème principal de santé dans tout le monde entier. Et d'ailleurs, les études d'OMS montraient que c'était dans les pays où, évidemment, les maladies sont les plus sévère ou en tout cas la souffrance est plus forte, que malheureusement il y a le moins d'accès aussi aux soins, parce qu'il y a le problème aussi quand même des ressources à mettre en place.
Et aucun pays, aucune culture n'est épargné.
Exactement.
Voilà, donc vous avez coupé la parole sur la question de santé publique, je vous laisse continuer sur les recherches sur nouveaux traitements.
Les recherches, évidemment, elles sont multiples. Là où on avance plus, c'est dans en tout cas un certain nombre que j'appellerais des cofacteurs, c'est-à-dire les choses qui vont aggraver la dépression et les moyens de lutter contre la dépression, qui sont des facteurs biologiques autour de tout ce qui fait souffrir le cerveau, on va dire, parce que c'est vrai que, bon, a priori, tout se passe au départ dans le cerveau, même si le corps est impliqué, et on sait que tout ce qui va abîmer même transitoirement les neurones et les neurotransmetteurs est délétère. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des pistes qui sont autour de l'inflammation du corps dans son ensemble, et donc de l'alimentation, par exemple. On sait qu'il y a des régimes alimentaires qui sont plus ou moins aggravants de l'inflammation, de tout ce qui va être infectieux, peut-être, à bas bruit, mais des infections assez courantes, mais qui provoquent ces réactions immunitaires et inflammatoires. Enfin, des éléments qui sont peut-être pas la cause de la dépression, mais qui l'aggravent et sur lesquels on pourra peut-être mieux agir bientôt.
Et d'où l'intérêt de consulter le plus vite possible. Merci beaucoup, Antoine Pellissolo.